Chapitre 2. Pour donner plus d'intérêt à la scène que provoqua cette situation, il est indispensable de jeter un coup d'œil sur la vie antérieure de Balthazar Claës et de la petite fille du duc de Casarreal. Vers l'an 1783, M. Balthazar Claës Molina de Nuro, alors âgé de 22 ans, pouvait passer pour ce que nous appelons en France un bel homme. Il vint achever son éducation à Paris, où il prit d'excellentes manières dans la société de Madame d'Egmont, du comte de Horn, du prince d'Arenberg, de l'ambassadeur d'Espagne, d'Helvétius, des Français originaires de Belgique, ou des personnes venues de ce pays, et que leur naissance ou leur fortune faisait compter parmi les grands seigneurs qui dans ce temps donnait le ton. Le jeune Claës y trouva quelques parents et des amis qui le lancèrent dans le grand monde au moment où ce grand monde allait tomber. Mais, comme la plupart des jeunes gens, il fut plus séduit d'abord par la gloire et la science que par la vanité. Il fréquenta donc beaucoup les savants et particulièrement Lavoisier, qui se recommandait alors plus à l'attention publique par l'immense fortune d'un fermier général que par ses découvertes en chimie. Tandis que plus tard, le grand chimiste devait faire oublier le petit fermier général. Balthazar se passionna pour la science que cultivait Lavoisier et devint son plus ardent disciple. Mais il était jeune, beau comme le fut Helvétius, et les femmes de Paris lui apprirent bientôt à distiller exclusivement l'esprit et l'amour. Quoiqu'il eût embrassé l'étude avec ardeur, que Lavoisier lui eût accordé quelques éloges, il abandonna son maître pour écouter les maîtresses du goût, auprès desquelles les jeunes gens prenaient leurs dernières leçons de savoir-vivre et se façonnaient aux usages de la haute société qui, dans l'Europe, forme une même famille. Le songe enivrant du succès dura peu. Après avoir respiré l'air de Paris, Balzac partit fatigué d'une vie creuse qui ne convenait ni à son âme ardente ni à son cœur aimant. La vie domestique et douce, si calme, et dont il se souvenait au seul nom de la Flandre, lui parut mieux convenir à son caractère et aux ambitions de son cœur. Les dorures d'aucun salon parisien n'avaient effacé les mélodies du parloir brun et du petit jardin où son enfance était écoulée si heureuse. Il faut n'avoir ni foyer ni patrie pour rester à Paris. Paris est la ville du cosmopolite où des hommes qui ont épousé le monde et qui l'étreignent incessamment avec le bras de la science, de l'art ou du pouvoir. L'enfant de la Flandre revint à Douai, comme le pigeon de la fontaine à son nid. Il pleura de joie en y rentrant, le jour où se promenait Gaillan. Gaillan, ce superstitieux bonheur de toute la ville, ce triomphe des souvenirs flamands, s'était introduit lors de l'émigration de sa famille à Douai. La mort de son père et celle de sa mère laissèrent la maison Claës déserte et l'y occupèrent pendant quelque temps. Sa première douleur passée, il sentit le besoin de se marier pour compléter l'existence heureuse dont toutes les religions l'avaient ressaisi. Il voulut suivre les errements du foyer domestique en allant, comme ses ancêtres, chercher une femme, soit à Gand, soit à Bruges, soit à Anvers. Mais aucune des personnes qu'il y rencontra ne lui convint. Il avait sans doute sur le mariage quelques idées particulières, car il fut dès sa jeunesse accusé de ne pas marcher dans la voie commune. Un jour, il entendit parler chez l'un de ses parents, à Gand, d'une demoiselle de Bruxelles qui devint l'objet de discussions assez vives. Les uns trouvaient que la beauté de Mademoiselle de Temeninck s'effaçait par ses imperfections. Les autres la voyaient parfaite, malgré ses défauts. Le vieux cousin de Balthazar Claës dit à ses convives que, belle ou non, elle avait une âme qui la lui ferait épouser, s'il était à marier. Et il raconta comment elle venait de renoncer à la succession de son père et de sa mère, afin de procurer à son jeune frère un mariage digne de son nom, en préférant ainsi le bonheur de ce frère aussi impropre, et lui sacrifiant toute sa vie. Il n'était pas à croire que Mademoiselle de Terninck se maria vieille et sans fortune, quand, jeune héritière, il ne se présentait aucun parti pour elle. Quelques jours après, Balthazar Claës recherchait Mademoiselle de Terninck, alors âgée de 25 ans, et de laquelle il s'était vivement épris. Joséphine de Terninck se crut l'objet d'un caprice et refusa d'écouter M. Claës. Mais la passion est si communicative, et pour une fille contrefaite et boiteuse, un amour inspiré à un homme jeune et bien fait comporte de si grandes séductions qu'elle consentit à se laisser courtiser. Ne faudrait-il pas un livre entier pour bien peindre l'amour d'une jeune fille humblement soumise à l'opinion qui la proclame laide, tandis qu'elle sent en elle le charme irrésistible que produisent les sentiments vrais. C'est de féroces jalousies à l'aspect du bonheur, de cruelles velléités de vengeance contre la rivale qui vole un regard, enfin des émotions, des terreurs inconnues à la plupart des femmes et qui alors perdraient à n'être qu'indiquées. Le doute, si dramatique en amour, serait le secret de cette analyse essentiellement minutieuse, où certaines âmes retrouveraient la poésie perdue, mais n'ont pas oublié de leurs premiers troubles. Ces exaltations sublimes au fond du cœur, et que le visage ne trahit jamais, cette crainte de n'être pas compris, et ces joies illimitées de l'avoir été, ces hésitations de l'âme qui se replie sur elle-même et ces projections magnétiques qui donnent aux yeux des nuances infinies, ces projets de suicide causés par un mot et dissipés par une intonation de voix aussi étendue que le sentiment dont elle révèle la persistance méconnue, ces regards tremblants qui voilent de terribles hardiesses, ces envies soudaines de parler et d'agir, réprimés par leur violence même, cette éloquence intime qui se produit par des phrases sans esprit, mais prononcées d'une voix agitée, les mystérieux effets de cette primitive pudeur de l'âme et de cette divine discrétion qui rend généreux dans l'ombre et fait trouver un goût exquis au dévouement ignoré, enfin toutes les beautés de l'amour jeune et les faiblesses de sa puissance. Mademoiselle Joséphine de Terninck fut coquette par grandeur d'âme. Le sentiment de ses apparentes imperfections la rendit aussi difficile que l'eût été la plus belle personne. La crainte de déplaire un jour éveillait sa fierté, détruisait sa confiance et lui donnait le courage de garder au fond de son cœur ces premières félicités que les autres femmes aiment à publier par leur manière et dont elles se font une orgueilleuse parure. Plus l'amour la poussait vivement vers Balthazar, moins elle osait lui exprimer ses sentiments. Le geste, le regard, la réponse ou la demande, qui chez une jolie femme sont des flatteries pour un homme, ne devenait-elle pas en elle d'humiliantes spéculations? Une femme belle peut à son aise être elle-même. Le monde lui fait toujours crédit d'une sottise ou d'une gaucherie. Tandis qu'un seul regard arrête l'expression la plus magnifique sur les lèvres d'une femme laide, intimide ses yeux, augmente la mauvaise grâce de ses gestes, embarrasse son maintien. Ne sait-elle pas qu'à elle seule, il est défendu de commettre des fautes? Chacun lui refuse le don de les réparer, et d'ailleurs personne ne lui en fournit l'occasion. La nécessité d'être à chaque instant parfaite ne doit-elle pas éteindre les facultés, glacer leur exercice? Cette femme ne peut vivre que dans une atmosphère d'angélique indulgence. Où sont les cœurs d'où l'indulgence s'épanche sans se teindre d'une amère et blessante pitié? Ces pensées auxquelles l'avait accoutumée l'horrible politesse du monde, et ces égards qui, plus cruels que des injures, aggravent les malheurs en les constatant, oppressaient Mademoiselle de Temeninck, lui causaient une gêne constante qui refoulait au fond de son âme les impressions les plus délicieuses et frappait de froideur son attitude, sa parole, son regard. Elle était amoureuse à la dérobée, n'osait avoir de l'éloquence de la beauté que dans la solitude. Malheureuse au grand jour, elle aurait été ravissante s'il lui avait été permis de ne vivre qu'à la nuit. Souvent, pour éprouver cet amour et au risque de le perdre, elle déteignait la parure qui pouvait sauver en partie ses défauts. Ses yeux d'espagnole fascinaient quand elle s'apercevait que Balthazar la trouvait belle en négligé. Néanmoins, la défiance lui gâtait les rares instants pendant lesquels elle se hasardait à se livrer au bonheur. Elle se demandait bientôt si Claës ne cherchait pas à l'épouser pour avoir au logis une esclave, s'il n'avait pas quelques imperfections secrètes qui l'obligeaient à se contenter d'une pauvre fille disgraciée. Ses anxiétés perpétuelles donnaient parfois un prix inouï aux heures où elle croyait à la durée et à la sincérité d'un amour qui devait la venger du monde. Elle provoquait de délicates discussions en exagérant sa laideur. Afin de pénétrer jusqu'au fond de la conscience de son amant, elle arrachait alors à Balthazar des vérités peu flatteuses. Mais elle aimait l'embarras où il se trouvait, quand elle l'avait amené à dire que ce qu'on aimait dans une femme était avant tout une belle âme et ce dévouement qui rend les jours de la vie si constamment heureux. Qu'après quelques années de mariage, la plus délicieuse femme de la terre est pour un mari l'équivalent de la plus laide. Après avoir entassé ce qu'il y avait de vrai dans les paradoxes qui tentent à diminuer le prix de la beauté, soudain Balthazar s'apercevait de la désobligeance de ses propositions et découvrait toute la bonté de son cœur dans la délicatesse des transitions par lesquelles il savait prouver à Mademoiselle de Derwinck qu'elle était parfaite pour lui. Le dévouement, qui peut-être est chez la femme le comble de l'amour, ne manqua pas à cette fille, car elle désespéra toujours d'être aimée. Mais la perspective d'une lutte dans laquelle le sentiment devait l'emporter sur la beauté la tenta. Puis elle trouva de la grandeur à se donner sans croire à l'amour. Enfin, le bonheur, de quelque courte durée qu'il pût être, devait lui coûter trop cher pour qu'elle se refusât à le goûter. Ses incertitudes, ses combats, en communiquant le charme et l'imprévu de la passion à cette créature supérieure, inspiraient à Balthazar un amour presque chevaleresque. Le mariage eut lieu au commencement de l'année 1795. Les deux époux revinrent à Douai passer les premiers jours de leur union dans la maison patriarcale des Claës, dont les trésors furent grossis par Mademoiselle de Temeninck, qui apporta quelques beaux tableaux de Murillo et de Velasquez, les diamants de sa mère et les magnifiques présents que lui envoya son frère devenu duc de Casareale. Peu de femmes furent plus heureuses que Madame Claës. Son bonheur dura 15 années sans le plus léger nuage, et comme une vive lumière, il s'infusa jusque dans les menus détails de l'existence. La plupart des hommes ont des inégalités de caractère qui produisent de continuelles dissonances. Ils privent ainsi leur intérieur de cette harmonie, le beau idéal du ménage. Car la plupart des hommes sont entachés de petitesse, et les petitesses engendrent les tracasseries. L'un sera probe et actif, mais dur et rêche. L'autre sera bon, mais entêté. Celui-ci aimera sa femme et aura de l'incertitude dans ses volontés. Celui-là, préoccupé par l'ambition, s'acquittera de ses sentiments comme d'une dette. S'il donne les vanités de la fortune, il apporte la joie de tous les jours. Enfin, les hommes du milieu social sont essentiellement incomplets, sans être notablement irréprochables. Les genres d'esprit sont variables autant que des baromètres. Le génie seul est essentiellement bon. Aussi, le bonheur pur se trouve-t-il aux deux extrémités de l'échelle morale. La bonne bête ou l'homme de génie sont seuls capables, l'un par faiblesse, l'autre par force, de cette égalité d'humeur, de cette douceur constante dans laquelle se fondent les aspérités de la vie. Chez l'un, c'est indifférence et passivité. Chez l'autre, c'est l'indulgence et continuité de la pensée sublime dont il est l'interprète et qui doit se ressembler dans le principe comme dans l'application. L'un et l'autre sont également simples et naïfs. Seulement, chez celui-là, c'est le vide. Chez celui-ci, c'est la profondeur. Aussi, les femmes adroites sont-elles assez disposées à prendre une bête comme le meilleur pis-aller d'un grand homme. Balthazar porta donc d'abord sa supériorité dans les plus petites choses de la vie. Il se plut à voir dans l'amour conjugal une œuvre magnifique, et comme les hommes de haute portée qui ne souffrent rien d'imparfait, il voulut en déployer toutes les beautés. Son esprit modifiait incessamment le calme du bonheur, et son noble caractère marquait ses attentions au coin de la grâce. Ainsi, quoiqu'il partageât les principes philosophiques du XVIIIe siècle, il installa chez lui jusqu'en 1801, malgré les dangers que les lois révolutionnaires lui faisaient courir, un prêtre catholique, afin de ne pas contrarier le fanatisme espagnol que sa femme avait sucé dans le lait maternel pour le catholicisme romain. Puis, quand le culte fut rétabli en France, il accompagna sa femme à la messe tous les dimanches. Jamais son attachement ne quitta les formes de la passion. Jamais il ne fit sentir, dans son intérieur, cette force protectrice que les femmes aiment tant, parce que, pour la sienne, elle aurait ressemblé à de la pitié. Enfin, par la plus ingénieuse adulation, il la traitait comme son égale et laissait échapper de ses aimables bouderies qu'un homme se permette envers une belle femme comme pour en braver la supériorité. Ses lèvres furent toujours embellies par le sourire du bonheur, et sa parole fut toujours pleine de douceur. Il aima sa Joséphine pour elle et pour lui, avec cette ardeur qui comporte un éloge continuel des qualités et des beautés d'une femme. La fidélité, souvent l'effet d'un principe social, d'une religion ou d'un calcul chez les maris, en lui semblait involontaire et n'allait point sans les douces flatteries du printemps de l'amour. Le devoir était du mariage la seule obligation qui fût inconnue à ces deux êtres également aimants, car Balthazar Claës trouva dans Mademoiselle de Temeninck une constante et complète réalisation de ses espérances. En lui, le cœur fut toujours assouvi sans fatigue et l'homme toujours heureux. Non seulement le sang espagnol ne mentait pas chez la petite fille des Casas Reales, et lui faisait un instinct de cette science qui sait varier le plaisir à l'infini, mais elle eut aussi ce dévouement sans bornes, qui est le génie de son sexe, comme la grâce en est toute la beauté. Son amour était un fanatisme aveugle qui, sur un seul tigne de tête, lui fait aller joyeusement à la mort. La délicatesse de Balthazar avait exalté chez elle les sentiments les plus généreux de la femme et lui inspirait un impérieux besoin de donner plus qu'elle ne recevait. Ce mutuel échange d'un bonheur alternativement prodigué mettait visiblement le principe de sa vie en dehors d'elle et répandait un croissant amour dans ses paroles, dans ses regards et dans ses actions. De part et d'autre, la reconnaissance fécondait et variait la vie du cœur. De même que la certitude d'être tout l'un pour l'autre excluait les petitesses en agrandissant les moindres accessoires de l'existence. Mais aussi, la femme contrefaite que son mari trouve droite, la femme boiteuse qu'un homme ne veut pas autrement, ou la femme âgée qui paraît jeune, ne sont-elles pas les plus heureuses créatures du monde féminin? La passion humaine ne saurait aller au-delà. La gloire de la femme n'est-elle pas de faire adorer ce qui paraît un défaut en elle? Oubliez qu'une boiteuse ne marche pas droit, elle a fascination d'un moment, mais l'aimer parce qu'elle boite est la déification de son vice. Peut-être faudrait-il graver dans l'évangile des femmes cette sentence. Bienheureuses les imparfaites, à elles appartiennent le royaume de l'amour. Certes, la beauté doit être un malheur pour une femme, car cette fleur passagère entre pour trop dans le sentiment qu'elle inspire. Ne l'aime-t-on pas comme on épouse une riche héritière? Mais l'amour que fait éprouver ou que témoigne une femme déshéritée des fragiles avantages après lesquels courent les enfants d'Adam est l'amour vrai. La passion vraiment mystérieuse, une ardente étreinte des âmes, un sentiment pour lequel le jour du désenchantement n'arrive jamais. Cette femme a des grâces ignorées du monde au contrôle duquel elle se soustrait. Elle est belle à propos et recueille trop de gloire à faire oublier ses imperfections pour n'y pas constamment réussir. Aussi les attachements les plus célèbres dans l'histoire furent-ils presque tous inspirés par des femmes à qui le vulgaire aurait trouvé des défauts. Cléopâtre, Jeanne de Naples, Diane de Poitiers, Mademoiselle de la Vallière, Madame de Pompadour, enfin la plupart des femmes que l'amour a rendues célèbres ne manquent ni d'imperfection ni d'infirmité. Tandis que la plupart des femmes dont la beauté nous est citée comme parfaite ont vu finir malheureusement leurs amours. Cette apparente bizarrerie doit avoir sa cause. Peut-être l'homme vit-il plus par le sentiment que par le plaisir. Peut-être le charme tout physique d'une belle femme a-t-il des bornes, tandis que le charme essentiellement moral d'une femme de beauté médiocre est infini. N'est-ce pas la moralité de la fabulation sur laquelle reposent les mille et une nuits? Femme d'Henri VIII, une laide aurait défié la hache et soumis l'inconstance en maître. Par une bizarrerie assez inexplicable chez une fille d'origine espagnole, Madame Claes était ignorante. Oh, il savait lire et écrire, mais jusqu'à l'âge de 20 ans, époque à laquelle ses parents la tirèrent du couvent, elle n'avait lu que des ouvrages ascétiques. En entrant dans le monde, elle eut d'abord soif des plaisirs du monde et n'apprit que les sciences futiles de la toilette. Mais elle fut si profondément humiliée de son ignorance qu'elle n'osait se mêler à aucune conversation. Aussi passa-t-elle pour avoir peu d'esprit. Cependant, cette éducation mystique avait eu pour résultat de laisser en elle les sentiments dans toute leur force et de ne point gâter son esprit naturel. Sotte et laide comme une héritière aux yeux du monde, elle devint spirituelle et belle pour son mari. Balthazar essaya bien, pendant les premières années de son mariage, de donner à sa femme les connaissances dont elle avait besoin pour être bien dans le monde. Mais il était sans doute trop tard. Elle n'avait que la mémoire du cœur. Oh, Joséphine n'oubliait rien de ce que lui disait Claës relativement à eux-mêmes. Elle se souvenait des plus petites circonstances de sa vie heureuse et ne se rappelait pas le lendemain sa leçon de la veille. Cette ignorance aurait causé de grands discords entre d'autres époux, mais Madame Claës avait une si naïve entente de la passion. Elle aimait si pieusement, si saintement son mari, et le désir de conserver son bonheur la rendait si adroite qu'elle s'arrangeait toujours pour paraître le comprendre et laissait rarement arriver les moments où son ignorance eût été par trop évidente. D'ailleurs, quand deux personnes s'aiment assez pour que chaque jour soit pour eux le premier de leur passion, il existe dans ce fécond bonheur des phénomènes qui changent toutes les conditions de la vie. N'est-ce pas alors comme une enfance insouciante de tout ce qui n'est pas rire, joie, plaisir? Puis, quand la vie est bien active, quand les foyers en sont bien ardents, l'homme laisse aller la combustion sans y penser ou la discuter, sans mesurer les moyens ni la fin. Jamais, d'ailleurs, aucune fille d'Ève n'entendit mieux que Madame Claës son métier de femme. Elle eut cette soumission de la flamande qui rend le foyer domestique si attrayant et à laquelle sa fierté d'espagnole donnait une plus haute saveur. Elle était imposante, savait commander le respect par un regard où éclatait le sentiment de sa valeur et de sa noblesse, mais devant Claës, elle tremblait. Et à la longue, elle avait fini par le mettre si haut et si près de Dieu, en lui rapportant tous les actes de sa vie et ses moindres pensées, que son amour n'allait plus sans une teinte de crainte respectueuse qui l'aiguisait encore. Elle prit avec orgueil toutes les habitudes de la bourgeoisie flamande et plaça son amour-propre à rendre la vie domestique grassement heureuse, à entretenir les plus petits détails de la maison dans leur propreté classique, à ne posséder que des choses d'une bonté absolue, à maintenir sur sa table les mets les plus délicats et à mettre tout chez elle en harmonie avec la vie du cœur. Ils eurent deux garçons et deux filles. L'aînée, nommée Marguerite, était née en 1796. Le dernier enfant était un garçon, âgé de 3 ans, et nommé Jean Balthazar. Le sentiment maternel fut chez Madame Claës presque égal à son amour pour son époux. Aussi se passa-t-il en son âme, et surtout pendant les derniers jours de sa vie, un combat horrible entre ces deux sentiments également puissants, et dont l'un était en quelque sorte devenu l'ennemi de l'autre. Les larmes et la terreur empreintent sur sa figure au moment où commence le récit du drame domestique qui couvait dans cette paisible maison étaient causées par la crainte d'avoir sacrifié ses enfants à son mari. En 1805, le frère de Madame Claës mourut sans laisser d'enfants. La loi espagnole s'opposait à ce que la sœur succédât aux possessions territoriales qui apanageaient les titres de la maison. Mais par ses dispositions testamentaires, le duc lui légua 60 000 ducats environ, que les héritiers de la branche collatérale ne lui disputèrent pas. Quoique le sentiment qui l'unissait à Balthazar Claës fût tel que jamais aucune idée d'intérêt l'eût entaché, Joséphine éprouva une sorte de contentement à posséder une fortune égale à celle de son mari, et fut heureuse de pouvoir à son tour lui offrir quelque chose après avoir si noblement tout reçu de lui. Le hasard fit donc que ce mariage, dans lequel les calculateurs voyaient une folie, fut, sous le rapport de l'intérêt, un excellent mariage. L'emploi de cette somme fut assez difficile à déterminer. La maison Claës était si richement fournie en meubles, en tableaux, en objets d'art et de prix, qu'il semblait difficile d'y ajouter des choses dignes de celles qui s'y trouvaient déjà. Le goût de cette famille y avait accumulé des trésors. Une génération s'était mise à la piste de beaux tableaux. Puis la nécessité de compléter la collection commencée avait rendu le goût de la peinture héréditaire. Les 100 tableaux qui ornaient la galerie par laquelle on communiquait du quartier de derrière aux appartements de réception situés au premier étage de la maison de devant, ainsi qu'une 50aine d'autres placés dans les salons d'apparat, avaient exigé 3 siècles de patiente recherche. C'étaient de célèbres morceaux de Rubens, de Ruisdael, de Van Dyck, de Terburg, de Gérard Doux, de Teniers, de Mieris, de Paul Potter, de Wouwermans, de Rembrandt, d'Aubenas, de Cranach et d'Holbein. Les tableaux, quelque bien à titre d'établissement, en le faisant renoncer à la succession paternelle. Plus largement, donner un apanage, droit ou pouvoir exercer, privilèges italiens et français, était en minorité, mais tous authentiques et capitaux. Une autre génération avait eu la fantaisie des services de porcelaine japonaise ou chinoise. Tel Claës s'était passionné pour les meubles, tel autre pour l'argenterie, enfin, chacun d'eux avait eu en sa main sa manie, sa passion, l'un des traits les plus saillants du caractère flamand. Le père de Balthazar, le dernier débris de la fameuse société hollandaise, avait laissé l'une des plus riches collections de tulipes connues. Outre ses richesses héréditaires qui représentaient un capital énorme et meublaient magnifiquement cette vieille maison, simple au dehors comme une coquille, mais comme une coquille intérieurement nacrée et parée des plus riches couleurs, Balthazar Claës possédait encore une maison de campagne dans la plaine d'Orchy. Loin de baser, comme les Français, sa dépense sur ses revenus, il avait suivi la vieille coutume hollandaise de n'en consommer que le quart, et 1200 ducats par an mettait sa dépense au niveau de celle que faisaient les plus riches personnes de la ville. La publication du Code civil donna raison à cette sagesse. En ordonnant le partage égal des biens, le titre des successions devait laisser chaque enfant presque pauvre et disperser un jour les richesses du vieux musée Claës. Balthazar, d'accord avec Madame Claës, plaça la fortune de sa femme de manière à donner à chacun de leurs enfants une position semblable à celle du père. La maison Claës persista donc dans la modestie de son train et acheta des bois, un peu maltraités par les guerres qui avaient eu lieu, mais qui, bien conservés, devaient prendre à 10 ans de là une valeur énorme. La haute société de Douai que fréquentait M. Claës avait su si bien apprécier le beau caractère et les qualités de sa femme que par une espèce de convention tacite, elle était exemptée des devoirs auxquels les gens de province tiennent tant. Pendant la saison d'hiver qu'elle passait à la ville, elle allait rarement dans le monde et le monde venait chez elle. Elle recevait tous les mercredis et donnait 3 grands dîners par mois. Chacun avait senti qu'elle était plus à l'aise dans sa maison, où la retenait d'ailleurs sa passion pour son mari et les soins que réclamait l'éducation de ses enfants. Telle fut, jusqu'en 1809, la conduite de ce ménage qui n'eut rien que de conforme aux idées reçues. La vie de ces deux êtres, secrètement pleine d'amour et de joie, était extérieurement semblable à tout autre. La passion de Balthazar Claës pour sa femme, et que sa femme savait perpétuer, semblait, comme il le faisait observer lui-même, employer sa constance innée dans la culture du bonheur, qui valait bien celle des tulipes vers laquelle il penchait dès son enfance, et le dispensait d'avoir sa manie, comme chacun de ses ancêtres avait eu la sienne. À la fin de cette année, l'esprit et les manières de Balthazar subirent des altérations funestes qui commencèrent si naturellement que d'abord Madame Claes ne trouva pas nécessaire de lui en demander la cause. Un soir, son mari se coucha dans un état de préoccupation qu'elle se fit un devoir de respecter. Sa délicatesse de femme et ses habitudes de soumission lui avaient toujours laissé attendre les confidences de Balthazar, dont la confiance lui était garantie par une affection si vraie qu'elle ne donnait aucune prise à sa jalousie. Quoique certaine d'obtenir une réponse quand elle se permettrait une demande curieuse, elle avait toujours conservé de ses premières impressions dans la vie la crainte d'un refus. D'ailleurs, la maladie morale de son mari eut des phases et n'arriva que par des teintes progressivement plus fortes à cette violence intolérable qui détruisit le bonheur de son ménage. Quelque occupé que fût Balthazar, il resta néanmoins pendant plusieurs mois causeur affectueux et le changement de son caractère ne se manifestait alors que par de fréquentes distractions. Madame Claes espéra longtemps savoir par son mari le secret de ses travaux. Peut-être ne voulait-il l'avouer qu'au moment où ils aboutiraient à des résultats utiles, car beaucoup d'hommes ont un orgueil qui les pousse à cacher leur combat et à ne se montrer que victorieux. Au jour du triomphe, le bonheur domestique devait donc reparaître, d'autant plus éclatant que Balthazar s'apercevait de cette lacune dans sa vie amoureuse que son cœur désavouerait sans doute. Joséphine connaissait assez son mari pour savoir qu'il ne se pardonnerait pas d'avoir rendu sa Pépita moins heureuse pendant plusieurs mois. Elle gardait donc le silence en éprouvant une espèce de joie à souffrir par lui, pour lui. Car sa passion avait une teinte de cette piété espagnole qui ne sépare jamais la foi de l'amour et ne comprend point le sentiment sans souffrance. Elle attendait donc un retour d'affection en se disant chaque soir « Oh, ce sera demain » et en traitant son bonheur comme un absent. Elle conçut son dernier enfant au milieu de ses troubles secrets. Horrible révélation d'un avenir de douleur. En cette circonstance, l'amour fut, parmi les distractions de son mari, comme une distraction plus forte que les autres. Son orgueil de femme blessée pour la première fois lui fit sonder la profondeur de l'abîme inconnu qui la séparait à jamais du Claes des premiers jours. Et dès ce moment, l'état de Balthazar empira. Cet homme, naguère incessamment plongé dans les lois de joie domestique, qui jouait pendant des heures entières avec ses enfants, se roulait avec eux sur le tapis du parloir ou dans les allées du jardin, qui semblait ne pouvoir vivre que sous les yeux noirs de sa Pépita, ne s'aperçut point de la grossesse de sa femme, oublia de vivre en famille et s'oublia lui-même. Plus Madame Claes avait tardé à lui demander le sujet de ses occupations, moins elle n'osa. À cette idée, son sang bouillonnait et la voix lui manquait. Enfin, elle crut avoir cessé de plaire à son mari et fut alors sérieusement alarmée. Cette crainte l'occupa, la désespéra, l'exalta, devint le principe de bien des heures mélancoliques et de tristes rêveries. Elle justifia Balthazar à ses dépens en se trouvant laide et vieille. Puis elle entrevit une pensée généreuse mais humiliante pour elle, dans le travail par lequel il se faisait une fidélité négative, et voulut lui rendre son indépendance en laissant s'établir un de ses secrets divorces, le mot du bonheur dont paraissaient jouir plusieurs ménages. Néanmoins, avant de dire adieu à la vie conjugale, elle tâcha de lire au fond de ce cœur, mais elle le trouva fermé. Insensiblement, elle vit Balthazar devenir indifférent à tout ce qu'il avait aimé, négliger ses tulipes en fleurs et ne plus songer à ses enfants. Sans doute, il se livrait à quelques passions en dehors des affections du cœur, mais qui, selon les femmes, n'en dessèchent pas moins le cœur. L'amour était endormi et non pas enfui. Si ce fut une consolation, le malheur n'en resta pas moins le même. La continuité de cette crise s'explique par un seul mot, l'espérance, secret de toutes ces situations conjugales. Au moment où la pauvre femme arrivait à un degré de désespoir qui lui prêtait le courage d'interroger son mari, précisément alors, elle retrouvait de doux moments, pendant lesquels Balthazar lui prouvait que, s'il appartenait à quelques pensées diaboliques, elles lui permettent de revenir parfois lui-même. Durant ces instants où son ciel s'éclaircissait, elle s'empressait trop à jouir de son bonheur pour le troubler par des importunités. Puis, quand elle s'était hardie à questionner Balthazar, au moment même où elle allait parler, il lui échappait aussitôt, il la quittait brusquement ou tombait dans le gouffre de ses méditations d'où rien ne le pouvait tirer. Bientôt, la réaction du moral sur le physique commença ses ravages, d'abord imperceptible, mais néanmoins insaisissable à l'œil d'une femme aimante qui suivait la secrète pensée de son mari dans ses moindres manifestations. Souvent, elle avait peine à retenir ses larmes en le voyant, après le dîner, plongé dans une bergère au coin du feu, morne et pensif, l'œil arrêté sur un panneau noir, sans s'apercevoir du silence qui régnait autour de lui. Elle observait avec terreur les changements insensibles qui dégradaient cette figure que l'amour avait faite sublime pour elle. Chaque jour, la vie de l'âme s'en retirait davantage, et la charpente restait sans aucune expression. Parfois, les yeux prenaient une couleur vitreuse. Il semblait que la vue se retournât et s'exerçât à l'intérieur. Quand les enfants étaient couchés, après quelques heures de silence et de solitude, pleines de pensées affreuses, si la pauvre Pépita se hasardait à demander « Mon ami, souffres-tu ?» Quelquefois, Balthazar ne répondait pas. Ou, s'il répondait, il revenait à lui par un tressaillement, comme un homme arraché en sursaut à son sommeil, et disait un non sec et caverneux qui tombait pesamment sur le cœur de sa femme palpitante. Quoiqu'il eût voulu cacher à ses amis la bizarre situation où elle se trouvait, elle fut cependant obligée d'en parler. Selon l'usage des petites villes, la plupart des salons avaient fait du dérangement de Balthazar le sujet de leur conversation. Et déjà, dans certaines sociétés, l'on savait plusieurs détails ignorés de Madame Claes. Aussi, malgré le mutisme commandé par la politesse, quelques amis témoignèrent-ils de si vives inquiétudes qu'elle s'empressa de justifier les singularités de son mari. « Monsieur Balthazar avait, disait-elle, entrepris un grand travail qui l'absorbait, mais dont la réussite devait être un sujet de gloire pour sa famille et pour sa patrie. » Cette explication mystérieuse caressait trop l'ambition d'une ville où, plus qu'aucune autre, règne l'amour du pays et le désir de son illustration, pour qu'elle ne produisît pas dans les esprits une réaction favorable à M. Claes. Les suppositions de sa femme étaient jusqu'à un certain point assez fondées. Plusieurs ouvriers de diverses professions avaient longtemps travaillé dans le grenier de la maison de devant, où Balthazar se rendait dès le matin. Après y avoir fait des retraites de plus en plus longues, auxquelles s'étaient insensiblement accoutumées sa femme et ses gens, Balthazar en était arrivé à y demeurer des journées entières. Mais, douleur inouïe, Madame Claës, apprit par les humiliantes confidences de ses bonnes amies, étonnées de son ignorance, que son mari ne cessait d'acheter à Paris des instruments de physique, des matières précieuses, des livres, des machines, et se ruinait, disait-on, à chercher la pierre philosophale. Elle devait songer à ses enfants, ajoutaient les amis, à son propre avenir, et serait criminel de ne pas employer son influence pour détourner son mari de la fausse route où il s'était engagé. Si Madame Claës retrouva son impertinence de grande dame pour imposer silence à ses discours absurdes, elle fut prise de terreur, malgré son apparente assurance, et résolut de quitter son rôle d'abnégation. Elle fit naître une de ces situations pendant lesquelles une femme est avec son mari sur un pied d'égalité. Moins tremblante ainsi, elle osa demander à Balthazar la raison de son changement et le motif de sa constante retraite. Le flamand fronça les sourcils et lui répondit alors « Ma chère, tu n'y comprendrais rien !» Un jour, Joséphine insista pour connaître ce secret en se plaignant avec douceur de ne pas partager toute la pensée de celui de qui elle partageait la vie. « Eh bien, puisque cela t'intéresse tant, répondit Balthazar en gardant sa femme sur ses genoux et lui caressant ses cheveux noirs, je te dirai que je me suis remis à la chimie et que je suis l'homme le plus heureux du monde. » 2 ans après l'hiver où M. Claës était devenu chimiste, sa maison avait changé d'aspect. Soit que la société se choquât de la distraction perpétuelle du savant ou crut le gêner, soit que ses anxiétés secrètes eussent rendu Madame Claës moins agréable, elle ne voyait plus que ses amis intimes. Balthazar n'allait nulle part, s'enfermait dans son laboratoire pendant toute la journée, y restait parfois la nuit et n'apparaissait au sein de sa famille qu'à l'heure du dîner. Dès la 2e année, il cessa de passer la belle saison à sa campagne, que sa femme ne voulut pas habiter seule. Quelquefois, Balthazar sortait de chez lui, se promenait, ne rentrait que le lendemain, en laissant Madame Claës pendant toute une nuit livrée à de mortelles inquiétudes. Après l'avoir fait infructueusement chercher dans une ville dont les portes étaient fermées le soir, suivant l'usage des places fortes, elle ne pouvait envoyer à sa poursuite dans la campagne. La malheureuse femme n'avait même plus alors l'espoir mêlé d'angoisse que donne l'attente et souffrait jusqu'au lendemain. Balthazar, qui avait oublié l'heure de la fermeture des portes, arrivait le lendemain, tout tranquillement, sans soupçonner les tortures que sa distraction devait imposer à sa famille. Et le bonheur de le revoir était pour sa femme une crise aussi dangereuse que pouvaient l'être ses appréhensions. Elle se taisait, n'osait le questionner, car à la première demande qu'elle fit, il avait répondu d'un air surpris. « Eh bien quoi, on ne peut pas se promener ?» Les passions ne savent pas tromper. Les inquiétudes de Madame Claës justifièrent donc les bruits qu'elle s'était plu à démentir. Sa jeunesse l'avait habituée à connaître la pitié polie du monde, et pour ne pas la subir une seconde fois, elle se renferma plus étroitement dans l'enceinte de sa maison que tout le monde déserta, même ses derniers amis. Le désordre dans les vêtements, toujours si dégradant pour un homme de la haute classe, devint tel chez Balthazar qu'entre tant de causes de chagrin, ce ne fut pas l'une des moins sensibles dont s'affecta cette femme habituée à l'exquise propreté des Flamandes. De concert avec le mulcunier, valet de chambre de son mari, Joséphine remédia pendant quelque temps la dévastation journalière des habits, mais il fallut y renoncer. Le jour même où, à l'insu de Balthazar, des effets neufs avaient été substitués à ceux qui étaient tachés, déchirés ou troués, il en faisait des haillons. Cette femme heureuse pendant 15 ans et dont la jalousie ne s'était jamais éveillée se trouva tout à coup n'être plus rien en apparence dans le cœur où elle régnait naguère. Espagnole d'origine, le sentiment de la femme espagnole gronda chez elle quand elle se découvrit une rivale dans la science qui lui enlevait son mari. Les tourments de la jalousie lui dévorèrent le cœur et rénovèrent son amour. Mais que faire contre la science? Comment en combattre le pouvoir incessant, tyrannique et croissant? Comment tuer une rivale invisible? Comment une femme, dont le pouvoir est limité par la nature, peut-elle lutter avec une idée dont les jouissances sont infinies et les attraits toujours nouveaux? Que tenter contre la coquetterie des idées qui se rafraîchissent, renaissent plus belles dans les difficultés et entraînent un homme si loin du monde qu'il oublie jusqu'à ses plus chères affections? Enfin, un jour, malgré les ordres sévères que Balthazar avait donnés, sa femme voulut au moins ne pas le quitter, s'enfermer avec lui dans ce grenier où il se retirait, combattre corps à corps avec sa rivale en assistant son mari durant les longues heures qu'il prodiguait à cette terrible maîtresse. Elle voulut se glisser secrètement dans ce mystérieux atelier de séduction et acquérir le droit d'y rester toujours. Elle essaya donc de partager avec le mulquinier le droit d'entrer dans le laboratoire. Mais pour ne pas le rendre témoin d'une querelle qu'elle redoutait, elle attendit un jour où son mari se passerait du valet de chambre. Depuis quelque temps, elle étudiait les allées et venues de ce domestique avec une impatience haineuse. Ne savait-il pas, lui, tout ce qu'elle désirait apprendre, ce que son mari lui cachait et ce qu'elle n'osait lui demander? Elle trouvait le mulquinier plus favorisé qu'elle, elle, l'épouse. Elle vint donc, tremblante et presque heureuse. Mais pour la première fois de sa vie, elle connut la colère de Balthazar. À peine avait-elle entrouvert la porte, qu'il fondit sur elle, la prit, la rejeta rudement sur l'escalier, où elle faillit rouler du haut en bas. « Oh, Dieu soit loué, tu existes !» cria Balthazar en la relevant. Un masque de verre s'était brisé en éclats sur Madame Claes, qui vit son mari, pâle, blême, effrayé. « Ma chère, je t'avais défendu de venir ici, » dit-il, en s'asseyant sur une marche de l'escalier, comme un homme abattu. Les saints ont préservé de la mort. Par quel hasard mes yeux étaient-ils fixés sur la porte? Nous avons failli périr. Donc j'aurais été bien heureuse alors, dit-elle. Mon expérience est manquée, reprit Balthazar. Oh, je ne puis plus pardonner qu'à toi la douleur que me cause ce cruel mécompte. J'allais peut-être décomposer l'azote. Allez, va, retourne à tes affaires. » Balthazar rentra dans son laboratoire. « J'allais peut-être décomposer l'azote, » se dit la pauvre femme en revenant dans sa chambre où elle fondit en larmes. Cette phrase était inintelligible pour elle. Les hommes, habitués par leur éducation à tout concevoir, ne savent pas ce qu'il y a d'horrible pour une femme à ne pas pouvoir comprendre la pensée de celui qu'elle aime. Plus indulgentes que nous ne le sommes, ces divines créatures ne nous disent pas quand le langage de leurs âmes reste incompris. Elles craignent de nous faire sentir la supériorité de leurs sentiments et cachent alors leur douleur avec autant de joie qu'elles taisent leur plaisir méconnu. Mais, plus ambitieuses en amour que nous ne le sommes, elles veulent épouser, mieux que le cœur de l'homme, elles en veulent aussi toute la pensée. Pour Madame Claes, ne rien savoir de la science dont s'occupait son mari engendrait dans son âme un dépit plus violent que celui causé par la beauté d'une rivale. Une lutte de femme à femme laisse à celle qui aime le plus l'avantage d'aimer mieux. Mais ce dépit accusait une impuissance et humiliait tous les sentiments qui nous aident à vivre. Joséphine ne savait pas. Il se trouvait pour elle une situation où son ignorance la séparait de son mari. Enfin, dernière torture et la plus vive, il était souvent entre la vie et la mort. Il courait des dangers loin d'elle et près d'elle, sans qu'elle les partageât, sans qu'elle les connût. C'était, comme l'enfer, une prison morale sans issue, sans espérance. Madame Claes voulut au moins connaître les attraits de cette science et se mit à étudier en secret la chimie dans les livres. Cette famille fut alors comme cloîtrée. Telles furent les transitions successives par lesquelles le malheur fit passer la maison Claes avant de l'amener à l'espèce de mort civile dont elle est frappée au moment où cette histoire commence. Cette situation violente se compliqua. Comme toutes les femmes passionnées, Madame Claes était d'un désintéressement inouï. Ceux qui aiment véritablement savent combien l'argent est peu de chose auprès des sentiments et avec quelles difficultés ils s'y agrègent. Néanmoins, Joséphine n'apprit pas sans une cruelle émotion que son mari devait 300 000 francs hypothéqués sur ses propriétés. L'authenticité des contrats sanctionnait les inquiétudes, les bruits, les conjectures de la ville. Madame Claes, justement alarmée, fut forcée, elle si fière, de questionner le notaire de son mari, de le mettre dans le secret de ses douleurs ou de les lui laisser deviner, et d'entendre enfin cette humiliante question. « Mais comment, Monsieur Claes, ne vous a-t-il encore rien dit ?» Heureusement, le notaire de Balthazar lui était presque parent. Et voici comment. Le grand-père de Monsieur Claes avait épousé une Pierrequin d'Anvers de la même famille que les Pierrequin de Douai. Depuis ce mariage, ceux-ci, quoique étrangers aux Claes, les traitaient de cousins. Monsieur Pierrequin, jeune homme de 26 ans qui venait de succéder à la charge de son père, était la seule personne qui eut accès dans la maison Claes. Madame Balthazar avait depuis plusieurs mois vécu dans une si complète solitude que le notaire fut obligé de lui confirmer la nouvelle des désastres déjà connus dans toute la ville. Il lui dit que, vraisemblablement, son mari devait des sommes considérables à la maison qui lui fournissait des produits chimiques. Après s'être enquis de la fortune et de la considération dont jouissait M. Claes, cette maison accueillait toutes ses demandes et faisait les envois sans inquiétude, malgré l'étendue des crédits. Madame Claes chargea Pierrequin de demander le mémoire des fournitures faites à son mari. Deux mois après, Messieurs Protez et Chiffreville, fabricants de produits chimiques, adressèrent un arrêté de compte qui montait à 100 000 francs. Madame Claes et Pierrequin étudièrent cette facture avec une surprise croissante. Si beaucoup d'articles exprimés scientifiquement ou commercialement étaient pour eux inintelligibles, ils furent effrayés de voir porter en compte des parties de métaux, des diamants de toutes les espèces, mais en petite quantité. Le total de la dette s'expliquait facilement par la multiplicité des articles, par les précautions que nécessitait le transport de certaines substances ou l'envoi de quelques machines précieuses, par le prix exorbitant de plusieurs produits qui ne s'obtenaient que difficilement, ou que leur rareté rendait cher, enfin, par la valeur des instruments de physique ou de chimie confectionnés d'après les instructions de M. Claes. Le notaire, dans l'intérêt de son cousin, avait pris des renseignements sur les prothèses et Chiffreville, et la probité de ses négociants devait rassurer sur la moralité de leurs opérations avec M. Claes, à qui d'ailleurs il faisait souvent part des résultats obtenus par les chimistes de Paris afin de lui éviter des dépenses. Madame Claes pria le notaire de cacher à la société de Douai la nature de ses acquisitions qui eussent été taxées de folie. Mais Pierrequin lui répondit que déjà, pour ne point affaiblir la considération dont jouissait Claës, il avait retardé jusqu'au dernier moment les obligations notariées que l'importance des sommes prêtées de confiance par ses clients avait enfin nécessité. Il dévoila l'étendue de la plaie en disant à sa cousine que si elle ne trouvait pas le moyen d'empêcher son mari de dépenser sa fortune si follement, dans 6 mois, les biens patrimoniaux seraient grevés d'hypothèques qui en dépasseraient la valeur. Quant à lui, ajouta-t-il, les observations qu'il avait faites à son cousin avec les ménagements dus à un homme si justement considéré n'avaient pas eu la moindre influence. Une fois pour toutes, Balthazar lui avait répondu qu'il travaillait à la gloire et à la fortune de sa famille.